C'était un grand jour de fête à Jérusalem. Dans le judaïsme du 1er siècle, on accordait beaucoup d'importance aux fêtes religieuses qui rythmaient les mois, les années, et dans un sens qui rythmaient la vie. La fête dont il s'agit ici, c'est la fête des tentes, appelée également la fête des huttes. Et c'était une des fêtes les plus importantes dans le calendrier juif. Chaque année, une bonne partie des habitants du pays se rendaient à Jérusalem. Donc il faut imaginer toute une partie de la population qui se rend à la capitale. Et là-bas, ils séjournaient pendant une semaine dans de petites huttes ou des tentes qu'ils fabriquaient avec des branches et des feuilles. D'autres restaient dans leur région parce que c'était quand même pas possible pour tout le monde de se déplacer. Mais là aussi, ils se fabriquaient des huttes où ils passaient toute la semaine. C'était une sorte de camping spirituel, si l'on veut, donc pendant une semaine. Alors pourquoi cette fête ? Eh bien, il s'agissait de rappeler que le peuple d'Israël avait dû vivre comme des nomades dans des tentes pendant les 40 années d'errance dans le désert du Sinaï, après la sortie d'Égypte. Or, pendant 40 ans, Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. La fête des tentes, donc, c'était une célébration de la fidélité de Dieu envers son peuple. Alors, c'était aussi, cet autre rôle joué par cette fête est venu un peu plus tard, semble-t-il, une fête des récoltes. Et en particulier, on fêtait la récolte des olives et des raisins qui avaient lieu à l'automne. Une réalité économique majeure, bien sûr, à l'époque et dans cette région. Et cette fête, donc, elle durait toute une semaine, donc c'était pas rien. Mais le huitième jour, donc, en réalité, le lendemain de la fête, ou le lendemain du dernier jour de la fête, c'était encore une journée festive et particulière. Ce jour-là, on défaisait les tentes en chantant des psaumes et on apportait des sacrifices au temple en reconnaissance à Dieu. Et donc, même si le huitième jour, théoriquement, ne faisait plus partie de la fête, en réalité, on considérait que c'était encore la fête. Et c'est probablement de ce huitième jour, ce dernier jour, que Jean parle lorsqu'il écrit au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, le jour où on défaisait les tentes et on s'apprêtait à reprendre la vie normale en quelque sorte. Voilà donc pour le contexte de ce texte. Or, ce jour-là, Jésus de Nazareth, cet homme de plus en plus controversé, réapparaît en public à Jérusalem. Et je vous propose de réfléchir à cet extrait que nous venons de lire. On le fera en deux temps, en voyant d'abord une invitation saisissante lancée par Jésus, une invitation saisissante, donc, et deuxièmement, une polémique grandissante. Une invitation saisissante d'abord. Lors de ce dernier jour de la fête, ou de ce huitième jour, Jésus donc prend la parole à nouveau, quelques jours après sa dernière intervention, dont nous avons parlé il y a deux semaines, sauf erreur. Mais cette fois, Jésus ne va pas donner un discours habituel. Le verset 37, et on s'en aperçoit pas forcément, le verset 37 nous dit qu'il s'est écrié dans la cour du temple. Donc il faut imaginer la scène. Il y a des gens partout venus apporter des sacrifices pour remercier Dieu lors de cette clôture de la fête des tentes. Et Jésus est au milieu de cette immense foule. Et tout d'un coup, à pleine voix, il crie. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je ne vais pas crier aussi fort qu'il l'a certainement fait. « Mais celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On lit parfois ce verset, à force de le lire, on le lit comme si Jésus disait cela au coin du feu, une tisane à la main. Ce n'est pas du tout le cas. Il est donc en plein milieu du temple et il crie ses paroles. En réalité, la voix de Jésus ici est fracassante. Elle vient interrompre le vacarme. Elle vient arrêter le déroulement tranquille de la tradition religieuse et de la vie quotidienne. Mais essayons de comprendre le sens des paroles de Jésus. Je relis la fin du verset 37 et le verset 38. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Voilà une image surprenante. On a du mal à cela visualiser le fait qu'un homme ou une femme qui a placé sa foi en Jésus aurait des fleuves d'eau vive qui coulent de sa personne, qui coulent de son sein. Mais les premiers auditeurs de Jésus connaissent très bien les Écritures, connaissaient très bien les Écritures, et cette image vraisemblablement était plus parlante pour eux que pour nous. D'abord, il faut prendre conscience du fait que pendant les 7 jours de la fête des Tentes à Jérusalem, il y avait une cérémonie particulière qui avait lieu. Le grand prêtre, accompagné d'une foule de pèlerins, allait puiser de l'eau dans la piscine de Siloam, qui est mentionnée par ailleurs dans l'évangile de Jean. Le grand prêtre, donc, personnage illustre du pays, chef religieux du pays, le grand prêtre puisait cette eau lui-même dans cette piscine, il la ramenait ensuite au temple et il la versait en offrande à Dieu. Et il s'agissait ainsi symboliquement de rappeler que Dieu, qui avait pris soin de son peuple pendant les 40 ans dans le désert, avait aussi donné à boire à son peuple. On se rappelle de l'épisode de Moïse qui frappe le rocher, Dieu qui fait couler de l'eau, etc. Or, que dit Jésus ici ? Le lendemain du dernier jour de cette cérémonie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, qu'est-ce que Jésus affirme ici ? Une fois de plus, sa parole est saisissante. Jésus est en train d'affirmer qu'à l'image d'Israël dans le désert, le peuple est maintenant invité à se tourner vers lui, Jésus, pour recevoir de lui l'eau qui mettra fin à sa soif. Et cela rappelle ce que Jésus a déjà dit, on le voit au chapitre 4 de cet évangile, lors de son dialogue avec la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Les paroles ici donc font écho à ces premières paroles de Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il poursuit avec ces paroles mystérieuses. « Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Jean précise au verset 39, parce qu'il sait que cette image est un peu difficile, il dit cela au sujet de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. Car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Un mot juste sur cette dernière phrase, Jean ne veut assurément pas dire que le Saint-Esprit n'existait pas encore autant à ce moment où Jésus parle, puisque il est déjà question du Saint-Esprit dans le deuxième verset de la Bible, hein, Genèse chapitre 1, verset 2. Il en est maintes fois question dans l'Ancien Testament. Et même dans cet évangile de Jean, on a déjà vu le Saint-Esprit intervenir, notamment lors du baptême de Jésus. Donc, très clairement, Jean n'est pas en train de dire là que l'Esprit n'existait pas. Mais ce qu'il affirme, c'est que l'Esprit Saint n'avait pas encore été répandu avec puissance sur les croyants, comme ce sera le cas après la résurrection et l'ascension de Jésus à la Pentecôte. Mais revenons à cette image étrange que Jésus semble décrire, où il nous dit que ceux et celles qui viennent vers lui, qui viendront boire auprès de lui, eh bien, c'est comme si des fleuves d'eau vive couleront à partir d'eux. Comment comprendre aussi le lien que Jésus fait avec le Saint-Esprit, ou plutôt que Jean ici explicite par rapport au Saint-Esprit ? Il y a plusieurs textes bibliques qui sont à l'arrière-plan de cette image. D'abord, écoutons ce que le prophète Ézéchiel nous dit à propos d'un nouveau temple dont il a eu la vision, un nouveau temple qu'il associe au monde à venir. Ézéchiel 47, versets 1, 5 et 12, quelques brefs extraits. « L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. C'était devenu un torrent infranchissable. » Sur chaque rive du torrent, les arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le prophète Joël évoque une image semblable. En ce jour-là, le jus du raisin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, l'eau coulera dans tous les torrents de Juda. Et la parole clé, une source sortira aussi de la maison du Seigneur. Vous voyez la même image que dans Ézéchiel, une source qui sort du temple. On a là deux textes qui parlent de manière imagée d'une nouvelle ère à venir, au cours de laquelle il y aura un nouveau monde plein de paix et d'abondance, et un nouveau temple dont sort une source. Mais pourquoi cette source qui sort du temple ? C'est quand même étonnant comme image, encore une fois. Un temple, c'est un bâtiment, on a du mal à imaginer une source qui sort du milieu du temple. Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'eau symbolise l'abondance qui vient de Dieu et le soin que Dieu prend de son peuple. Et le prophète Ésaïe écrit ainsi, « Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. » Ou toujours Ésaïe, chapitre 55, « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. » On voit bien dans ces différents textes que l'eau dont il est question est en tout cas en partie symbolique. Tous ces textes évoquent l'avenir du peuple de Dieu, évoquent, vu du point de vue de l'époque, l'avenir, la nouvelle alliance, une nouvelle relation conclue par Dieu avec les hommes. Et les prophètes nous disent que Dieu va conclure cette relation en déversant son esprit sur les hommes et les femmes qu'il invite à le connaître. Autrement dit, Dieu va venir habiter non plus dans un temple physique à Jérusalem, mais il va venir résider dans la vie de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et cette présence de Dieu sera comme une source éternelle de joie, de paix et d'abondance. Alors, il faut reconnaître que ce texte est très dense et que les images se multiplient et qu'il n'est donc pas très facile. Mais ça vaut la peine, je pense, de saisir la richesse de ces images qui viennent de l'Ancien Testament pour comprendre en quoi l'invitation de Jésus est saisissante. Parce que où est Jésus lorsqu'il prononce ces paroles ? Il est dans le temple de Jérusalem. Mais dans ce temple, il affirme que c'est lui qui offre l'eau du salut. L'eau qui vient du temple vient en réalité de Jésus. Il va jusqu'à dire que celui qui vient à lui sera lui-même comme le temple de la vision d'Ézéchiel, un lieu où Dieu réside, où il fait constamment jaillir l'abondance de la vie. Dans le temple, donc, qui symbolise la présence de Dieu parmi les hommes, Jésus affirme que Dieu viendra habiter dans la vie de celui ou celle qui croit en lui. Alors je nous pose la question, est-ce que nous avons soif de Dieu ? Qui a soif ici ? Qui a soif de vivre non plus simplement pour le métro, boulot, dodo, mais de vivre l'abondance inimaginable d'une relation vivante et éternelle avec celui qui nous a créés. Par la venue de Jésus-Christ dans ce monde, en chair et en os, Dieu est venu nous chercher, il est venu à notre recherche, il est venu nous appeler à venir à lui. Il y a tellement de textes qui nous disent « venez à moi ». Il est venu pour nous offrir une vie ancrée dans son amour et son éternité. Qui a soif ? Jésus est venu donner à boire. Et si quelqu'un ce matin n'a pas encore puisé de cette eau que Jésus donne, cette vie nouvelle qui trouve sa source en lui, eh bien, je vous supplie, nous vous supplions dans cette église de ne pas passer à côté de cet appel qui change tout, qui change la vie. Et quant à ceux d'entre nous qui nous sommes déjà tournés vers Jésus, je sais que c'est le cas de beaucoup ce matin, nous avons ici le rappel que nous avons en permanence dans notre vie cette source inépuisable de la présence et de la bonté de Dieu. Alors, comment comprendre que si souvent, et moi le premier, nous nous tournions ailleurs pour boire, nous croyons prendre des forces en plaçant notre confiance dans une quantité de choses. Nous plaçons notre confiance dans des choses dont nous pensons qu'elles font notre identité, notre travail, nos relations, notre apparence peut-être. Et c'est là que nous essayons de puiser l'eau de la vie plutôt que de nous abreuver encore et encore à la vie nouvelle que nous offre Jésus. Une des choses qui me bouleverse dans cet épisode, c'est que Jésus, il n'a pas crié ces paroles histoire de se faire entendre simplement comme ça, histoire de les crier. Il les a criées pour que des hommes et des femmes entendent ces paroles et répondent à son appel. Ce n'était pas des paroles dans le vide. Et cette voix de Jésus a traversé des siècles pour venir jusqu'à nous aujourd'hui, pour que des hommes et des femmes d'aujourd'hui encore, de Paris même au XXIe siècle, puissent entendre cette voix et retrouver le Dieu de l'univers qui veut se faire connaître d'eux. Alors bien sûr, je ne sais pas si toutes les personnes présentes dans la cour du Temple ont compris toutes ces images et tout ce qu'impliquaient ces paroles créées par Jésus, certainement pas, même s'ils l'ont sans doute mieux compris que nous au premier abord. Mais par contre, on peut bien imaginer que pour les responsables religieux qui s'opposaient de plus en plus à Jésus, la coupe était pleine. Le reste du texte fait état d'une polémique grandissante, parce que eux ont bien compris, en tout cas, certaines implications de ce que dit Jésus. Une polémique grandissante, donc ce sera le second point. C'est frappant de voir, quand on suit l'actualité, etc., qu'un même événement peut être interprété de manière radicalement opposée par des personnes selon leur positionnement. On pense à un même événement, et puis selon qu'on se positionne là ou là, eh bien, on va décrire cet événement de manière complètement différente. Alors, c'est particulièrement frappant dans la vie politique. Alors, juste un exemple. Je me prononce absolument pas sur le fond de l'affaire, mais je mentionne juste cet exemple. Il y a quelques mois, l'ancien président Nicolas Sarkozy, vous vous en souviendrez, a écrit une tribune dans le Figaro en réaction aux écoutes téléphoniques dont il est l'objet. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit. Et pour un même texte, en voici deux réactions. Il y avait le premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, qui a indiqué que le contenu de la lettre était une faute morale. Et puis, à l'inverse, pour Jean-François Copé, le président de l'UMP d'alors, ni l'un ni l'autre ne sont en fonction maintenant, comme quoi ça change assez vite, mais à l'inverse, pour lui, c'était une réponse courageuse, forte et indispensable. Voilà, une même chose, et alors deux réactions complètement opposées. Alors, plus banalement, on retrouve cela dans les conflits entre personnes, qui vont parler d'un même événement qui les a concernés et où on a deux interprétations complètement différentes. Et dans notre texte, nous voyons que les paroles de Jésus ne laissent personne indifférent. Au verset 40 et 41, on voit que les foules s'interrogent à nouveau. Qui est Jésus ? Alors pour certains, c'est le prophète, c'est-à-dire, par là ils veulent dire le prophète dont Moïse avait annoncé la venue, celui qui viendrait à la suite de Moïse pour enseigner le peuple de Dieu. Pour d'autres, c'est le Christ, et ça c'est une affirmation très forte, le Messie, le descendant glorieux du roi David, qui devait régner non seulement sur Israël, mais même sur toutes les nations. En réalité, ces deux opinions sont correctes. Jésus, effectivement, est, dans un sens, le prophète qui vient après Moïse, celui qui révèle la volonté et l'alliance de Dieu. Il est aussi le Messie, le roi héritier de David. Mais dans la suite du texte, on voit que les foules ont du mal à faire cadrer les affirmations de Jésus avec ce qu'ils croient savoir de lui et ses origines modestes. Fin du verset 41. Mais est-ce de Galilée que vient le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David ? Alors ici, il y a une ironie sous-entendue par Jean. Parce que Jean savait très bien, Jean était l'un des disciples de Jésus, Jean savait parfaitement bien, et la plupart des lecteurs de Jean savaient aussi que Jésus était né à Bethléem, même s'il a grandi ensuite en Galilée. Donc pourquoi est-ce que Jean cite comme ça, sans commentaire, cette critique ? Justement pour montrer l'authenticité des paroles de Jésus, par contraste avec l'ignorance de ses détracteurs qui ne savent même pas où il est né. Mais revenons à la cour du Temple. La polémique enfle, verset 43, « Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. » Et Jean indique que certains voulaient l'arrêter. Il y a déjà une sorte de mandat d'arrêt qui avait été émis par les autorités du Temple. On l'a vu la fois précédente au verset 32. « Les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. » Et pourtant, ces gardes refusent d'arrêter Jésus. Et lorsque leur chef leur demande « Mais pourquoi vous n'avez pas fait votre travail ? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ?» Ils répondent, verset 46, « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Et là, les pharisiens vont avoir recours au bon vieil argument élitiste. Verset 48, « Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Si on devait actualiser un peu, on va quand même pas croire ce que disent les gens qui font leur course au Lidl, qui conduisent une Citroën Saxo. J'actualise un peu les références, mais cette foule, ce petit peuple qui est là, c'est quand même pas eux qu'on va écouter. Alors les pharisiens estiment que si Jésus est suivi par le petit peuple mais pas par l'élite, c'est sans doute le signe qu'il ne faut pas l'écouter. Mais Dieu, lui, pense autrement. Et tout le propos de Jean dans ce paragraphe, c'est de montrer que les autorités religieuses qui croient être éclairés, en réalité sont plongés dans les ténèbres. Tandis que la foule perçoit, elle, des éléments de vérité. Jésus est le prophète comme Moïse, Jésus est le Messie. Et donc Jean montre cela, encore une fois, avec ironie. D'abord, alors que des pharisiens viennent de dire qu'aucun chef ou pharisien n'a mis sa foi en Jésus, eh bien Nicodème, qui précisément était un chef religieux, va publiquement défendre Jésus, juste après. Alors on ne sait pas dans quelle mesure Nicodème avait vraiment compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est la deuxième fois en tout cas qu'on le voit s'intéresser à Jésus et accorder de l'importance à son enseignement. Et Nicodème rappelle à ses collègues qu'on ne juge pas un homme sans avoir entendu sa défense. Et là, les autres prêtres et pharisiens sortent un argument profond et solidement argumenté. Verset 52, « Serais-tu de Galilée, toi aussi ?» C'est bien connu, quand on n'a pas d'argument à faire valoir, soit on crie plus fort, soit on fait du délit de faciès, comme on dit. « Tu dis ça parce que tu viens de tel pays, parce que tu as telle origine, etc. » Ça nous fait sourire, mais assurons-nous, en tant que chrétiens, que nous n'agissons pas ainsi. Que nous ne sommes pas des personnes qui refusent d'emblée d'écouter ce que peut nous dire telle personne, parce qu'il est musulman peut-être, parce qu'il est athée, parce qu'il est homosexuel peut-être. Assurons-nous que nous n'avons pas cette attitude. Il ne s'agit pas de remettre en question la vérité de la parole et de l'évangile. Il s'agit d'entrer dans un véritable dialogue, parce que nous croyons précisément que la vérité est la vérité. Mais revenons à notre texte. Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Encore raté. Il y a au moins un prophète, Jonas, qui était né en Galilée. Jean nous montre cela avec un peu d'ironie. Et le prophète Ésaïe dit également ceci à propos de la Galilée, chapitre 8, verset 23. Les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Et puis, quelques versets seulement après, Ésaïe annonce la venue du Messie, du roi descendant de David qu'on appellera merveilleux conseiller, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Donc dans toute cette section, Jean, avec beaucoup de finesse comme toujours, veut nous montrer que ceux qui se croient éclairés, en réalité, sont complètement dans l'erreur. En revanche, ceux qui se laissent interpeller par la voix de Jésus reconnaissent que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et la question nous est posée une fois de plus, comment réagissons-nous aux paroles de Jésus? Est-ce que nous pensons avoir rangé Jésus dans une case? Pour les pharisiens, Jésus, c'était un illuminé ou un imposteur, pour la plupart des pharisiens en tout cas. Pour beaucoup de nos contemporains, Jésus, c'est une référence historique, voilà, culturelle. Et pourtant, ils ont soif. Et pourtant, nos contemporains qui ne connaissent pas Jésus ont tellement besoin de cette eau qu'il donne. Et nous en avons tellement besoin au quotidien. D'ailleurs, même les chrétiens, et moi le premier, parfois nous rangeons aussi Jésus dans une case, la case vie spirituelle. J'ai le travail, j'ai les amis, j'ai les loisirs, et puis j'ai la vie spirituelle qui est là aussi. Et puis quand j'en ai besoin, j'ouvre ce tiroir-là et je m'adresse à Jésus. Mais par quelle folie pensons-nous que nous n'avons pas besoin de la voix de Jésus pour tous les domaines de la vie? Nous avons besoin de Jésus en vacances. Certains peut-être là se disent oui, tout à fait. Nous avons besoin de Jésus au travail. Nous avons besoin de Jésus dans tous les domaines de la vie. En conclusion, je voudrais m'arrêter sur une dernière ironie du texte. Au verset 52, les collègues de Nicodème lui disent « Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Et on a vu qu'en fait, eh bien, si on cherche bien, on voit qu'il y a au moins un prophète qui vient de la Galilée et que cette région, elle aura un avenir glorieux. Alors, ce n'est pas très important le fait de savoir si des prophètes sont nés en Galilée ou pas. Dans l'absolu, peu importe. Mais par contre, il y a un enjeu important dans cet échange entre Nicodème et ses collègues. Parce qu'ils prétendent qu'en cherchant bien dans les Écritures, on verra que Jésus n'est qu'un imposteur. Or, précisément, ce sont eux qui n'ont pas bien cherché. Et je pense que nous pouvons en tirer l'application suivante. N'ayons pas peur de nous plonger dans les Écritures, d'en explorer toute la profondeur, de réfléchir, de raisonner, de nous poser les questions difficiles. La foi ne peut pas s'opposer à la raison si la foi est placée dans le Dieu qui a créé la raison. Et en général, Plus les gens écoutent sérieusement et profondément ce qu'enseigne Jésus, plus ils ont tendance à se tourner vers lui. Et l'un des drames de notre société, tellement instruite par ailleurs, c'est qu'elle évite soigneusement de s'intéresser vraiment aux paroles de Jésus. On nous dit « Cherchez bien, soyez des gens rationnels et vous verrez que tout ça, ce ne sont que des superstitions. » Mais Jésus nous dit « Cherchez et vous trouverez. » Amen.